Radio-Télévision Suisse.
RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Aujourd'hui, on part à Cuba, on rend hommage à un grand artiste disparu cette semaine et on parle de la littérature pour la jeunesse. La mort de Fidel Castro a marqué l'actualité dans le monde le week-end dernier. Deux écrivains réagissent à cette disparition sur notre plateau, la cubaine Zoé Valdés et le français Frédéric Couder. Tous les deux ont publié récemment deux romans qui évoquent la situation politique de Cuba. Nous parlerons de l'actualité des livres de poche avec Anna Gavalda. Il sera aussi question de la littérature jeunesse à l'occasion du Salon de Montreuil qui se tient en ce moment en France. Nous sommes avec la française Marie Desplechin et la japonaise Junko Kawakami. Et puis nous rendrons hommage à Ousmane Sow, mort jeudi au Sénégal, l'un des plus grands artistes plasticiens africains, célèbre pour ses sculptures géantes, laisse le monde de l'art international en deuil. Jean-Christophe Ruffin sera en liaison avec nous tout à l'heure.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et quatre libraires sont en multiplex à travers la francophonie comme chaque semaine. On accueille un libraire libanais, une libraire libanaise même. On part tout de suite à Beyrouth. Bonjour Rania Stéphan.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes dans le quartier d'Achrafrieh. Vous dirigez cette librairie généraliste avec un grand espace dédié à la bande dessinée. Grand espace aussi pour la littérature jeunesse dont on parlera tout à l'heure.
Oui, tout à fait. Il y a un étage entier qui est dédié à la bande dessinée, à la jeunesse. Et il y a l'autre étage qui est généraliste avec les beaux livres et la littérature.
Voilà, un étage entier pour les jeunes, c'est parfait. Que voyez-vous à travers la fenêtre là? Qu'est-ce qu'il y a autour de vous dans cette librairie d'Achrafrieh?
Étant donné que la librairie se trouve dans un quartier résidentiel assez aisé, il y a autour de moi le plus grand centre commercial, un grand supermarché et malheureusement la pluie pour aujourd'hui.
D'accord, pas toujours beau temps au Liban. Bon, très bien, merci Rania d'être avec nous, vous restez avec nous tout au long de cette émission. Bonjour Billy Robinson.
Bonjour Emmanuel.
Vous représentez le Canada dans la librairie de Verdun, dans le sud de Montréal, tout va bien pour vous Billy?
Très très bien ce matin.
Grande librairie avec grand espace pour la jeunesse aussi, hein, je crois.
Oui, c'est vrai.
En Suisse, c'est le retour d'Anne-Françoise Kor de la librairie Page 2016 à Payerne. Bonjour Anne-Françoise.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour Annick Dor.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire en Belgique, notre libraire belge cette semaine, libraire à la Hulpe, dans la librairie de la Mazrine, fidèle au poste. Merci d'être avec nous tous les quatre. Bonjour Marie Desplechin.
Bonjour.
Nous allons parler de la littérature jeunesse donc tout à l'heure avec Junko aussi qui est avec nous. On commence toujours cette émission par une histoire, une anecdote personnelle racontée par l'un de nos invités. Vous avez carte blanche aujourd'hui Marie. Que voulez-vous transmettre?
Alors, je vais vous parler de deux livres que j'adorais quand j'étais gamine, quand j'avais une douzaine d'années, qui s'appelaient Chevrette et Virginie et l'Amazone bleue en bibliothèque verte. Oui. Et le nom de l'auteur faisait rêver, c'était Françoise Daubonne. Mais elle n'en avait pas écrit d'autres pour les enfants. Devenue adulte, je me suis rendu compte que c'était une très grande théoricienne féministe qui s'était installée aux États-Unis avec une vision très radicale des choses. Et j'étais stupéfaite par ces deux visages et par ce que ça avait laissé dans mon enfance. Des années, j'ai bien passé 40, j'arrive à 50, je vais dans un café avec un copain pendant une heure un matin, voilà, dans le centre de Paris, et on discute à bâton rompu et notamment de féminisme. Et il y avait une dame avec des cheveux toutes poudrées, habillée de couleurs vives, de rose tyrien, dans un coin de ce café avec plein de papiers. Je quitte ce copain, je vais vers la porte, cette dame m'arrête et me dit « Madame, je vous ai écouté parler, je pense que ceci pourrait vous intéresser. » Et elle me donne une invitation à un récital de poétesse persane. Et je vois dans la liste des invités Françoise Daubonne. Et je lui dis oh, « Mais madame, j'aurais adoré pouvoir venir parce que Françoise Daubonne, vous pouvez pas savoir ce qu'elle représente pour moi. » Et elle me dit « Mais madame, Françoise Daubonne, c'est moi. » Et je dis, est-ce que je peux vous embrasser? Elle me dit, mais faites. Et voilà, comment j'ai embrassé chaleureusement sur ces deux joues poudrées, Françoise Daubonne à qui je devais tant.
Et voilà, le hasard de la vie, c'est incroyable quand même. Hein.
C'était merveilleux.
Il y a des hasards comme ça qu'on n'arrive pas à expliquer. Ça vous trouble?
Non, ça m'enchante.
Très bien. Marie Desplechin est dans la librairie francophone cette semaine. « Bonjour Frédéric Coudert.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Fidel Castro est mort. Quel avenir pour Cuba? Quelles sont les véritables réactions des Cubains? Nous allons tenter de répondre à ces questions avec vous et avec Zoé Valdés. Vous publiez Le jour se lève et ce n'est pas le tien aux éditions Héloïse d'Ormesson. Une enquête sur Camilo et sa descendance. Camilo est un héros au début de la révolution cubaine. Il est le fidèle compagnon de Castro, mais pas pour très longtemps.
J'aurais aimé l'embrasser, moi aussi, ce Camillo, enfin, véritablement le serrer dans mes bras.
Ah oui, à ce moment-là?
Ah bah oui, là, c'est véritablement un coup d'amitié avec ce personnage dingue, disparu à 27 ans, comme une rockstar, d'un personnage qui a accompagné Fidel, en fait, jusqu'à la libération de la Havane, qui a tenu la Havane pendant 7 jours, et qui, parce qu'il n'était pas sectaire, parce qu'il faisait la fête, parce qu'il était véritablement un dieu vivant dans cette population cubaine, a été extrêmement menaçant, au point que on pense, et la plupart des opposants à Castro pensent qu'en fait le premier crime parfait des frères Castro a été réalisé contre
oui,
lui.
C'est-à-dire qu'il meurt le 28 octobre 1959, juste après l'arrivée au pouvoir de Castro, hein, je rappelle c'est en janvier, février 59, au tout début de l'année, et il meurt dans un accident d'avion. Alors on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Il y en a qui partent à sa recherche. Il y a même Che Guevara, qui est son ami intime, qui va partir à la recherche de Camilo. Et on ne le retrouve pas.
On le retrouvera pas. Mais moi, ce qui m'a lancé véritablement ce roman, puisque c'est un roman, ouais, c'est pas une biographie.
Vous imaginez d'ailleurs un discours avec Fidel Castro.
Voilà, un face à face après dans la
quête d'identité. Qui raconte exactement ce qui s'est passé.
Voilà. Et si vous voulez, en fait, ce qui m'a lancé sur cette histoire, c'est que chaque année le 28 octobre, les femmes jettent encore, donc plus d'un demi-siècle après, des fleurs à la mer en hommage à ce personnage Camilo. Je trouve que c'est un geste vraiment très très beau. C'est véritablement un Che Guevara inconnu.
Et dans votre livre, vous racontez que Castro explique à son descendant ce qu'il s'est passé, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Alors après, on n'a jamais su, si
Alors après, moi j'ai joué, je suis romancier,
oui, bien
donc
sûr,
je suis surtout pas biographe.
Mais la vérité, c'est quoi?
Ah bah, toutes les hypothèses sont
possibles. Toujours aujourd'hui. Ouais.
Toujours aujourd'hui, mais le régime a pas lancé une simple recherche, donc on a bien retrouvé Saint-Exupéry. Donc on pourrait retrouver quelque chose, et peut-être qu'à terme, on va retrouver un corps et un avion. Mais surtout, moi j'ai complètement disposé un autre puzzle. J'ai donc inventé des personnages, un homme qui aujourd'hui, suite à deux traumatismes à New York, se rend compte qu'en fait il est connecté à ce Camilo. Mais ce qui est important pour moi, c'est que finalement, puisqu'on est vraiment dans du roman, les personnages fictifs ont pris le pas finalement sur Camilo, et j'ai un énorme attachement pour donc celui que j'imagine être son fils et sa femme, donc Alice et Léo, et qui vont refaire comme ça une sorte de quête initiatique qui va les mener de la Havane hier à New York, puis la Havane aujourd'hui. Et moi, un petit peu comme outsider, presque comme mon personnage Léo, je découvre la Havane aujourd'hui avec une forme de tristesse et de mélancolie.
Mais en tout cas, c'est un personnage très intéressant, qui est effectivement modéré, qui se serait opposé à une alliance avec l'URSS. C'est pour ça que les frères Castro, finalement, auraient très bien pu s'en débarrasser. Il devenait gênant très rapidement, quelques mois après la prise du pouvoir.
Il était surtout gênant pour Raoul, mais il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, il avait gagné un combat. Il y a quelque chose de profondément héroïque, c'est qu'en fait la victoire de Castro, c'est la victoire contre la mafia. Et ça, tout le monde l'a oublié, donc on peut convoquer des vieux films de gangsters. Et c'est vrai que Camillo et les autres triomphent de Lansky et de la mafia. C'est évidemment hyper, hyper romanesque, mais ça explique dans un premier temps le succès de cette révolution.
On va laisser la parole à deux de nos libraires qui ont lu votre livre, Frédéric Coudert. On va commencer par la Belgique avec Annick Dor.
Oui, moi j'ai beaucoup aimé cette plongée dans Cuba, le Cuba actuel, autant que le Cuba des années 50 avec la révolution des guérilleros. Et puis je me suis complètement immergée dans cette quête identitaire. Et j'ai aussi beaucoup appris sur ce Camilo Cienfuegos. Et puis eh bien, j'ai apprécié une chose assez étonnante, c'est la note en fin d'ouvrage où vous précisez ce qui est réel de ce qui est inventé. Et je trouve que vous ne trompez pas le lecteur, c'est absolument parfait.
Oui, il est honnête, Frédéric Coudert.
Voilà.
En Suisse, il y a une autre libraire qui est honnête aussi, Anne-Françoise Corr, qu'en pensez-vous?
Pour moi, le point fort de ce roman est sans aucun doute l'immersion réussie dans l'âme de la révolution cubaine, la Revolución, parfaitement décrite et documentée par l'auteur. Mais je n'ai pas été totalement séduite par le style narratif de ce roman, que j'ai trouvé un brin trop longuet, peut-être un peu trop touffu, qui m'a parfois empêché d'entrer dans le vif de l'histoire.
Oui, alors c'est dense. C'est vrai qu'il y a des croisements entre la vérité, des croisements avec l'histoire romancée. Hein. Frédéric, vous avez imaginé des choses. Il y a de quoi imaginer des choses avec le clan Castro. On peut en faire beaucoup.
Bien sûr.
Et vous qui êtes allé sur place donc, pour écrire ce roman, comment Fidel Castro était-il jugé par le peuple cubain il y a encore quelques mois, quelques semaines? Qu'avez-vous ressenti, vous?
Moi, déjà, j'essayais d'être vraiment à hauteur d'homme. C'est pas une pause. J'ai vécu dans une petite casa particulière. Je n'étais pas parmi les touristes ni dans des hôtels. Donc, c'est vrai que j'ai sillonné. Je sillonne à pied pendant vraiment des jours et des jours tous les quartiers que je décris dans ce livre.
Mais vous avez ressenti de la compassion, ou en tout cas de la sympathie pour Fidel Castro encore?
Alors, il est craint. Ouais, c'est-à-dire qu'au bout de plusieurs semaines, le propriétaire de ma casa m'a juste dit qu'il était intelligent quand je lui ai demandé ce qu'il en pensait. On est dans un pouvoir quand même militaire, on ne peut pas parler librement, tout ce qui tourne autour du tourisme est contrôlé par l'armée.
Ouais. On va écouter le son du monde de la semaine, Frédéric Couder. Zoé Valdés va lire un extrait de votre roman sur la musique de Compay Segundo et on parle avec elle ensuite de la mort de Castro.
Mueren ya. Las ilusiones de ayer, que sacié con lujurioso amor, y mueren también con sus promesas crueles, la inspiración que un día le brindé.
La revolución était en marche. Comme une sorte, je vivrai moi aussi aux promesses d'un pays libre et égalitaire. La paix avait réalisé chez nous son rêve le plus fou, la création d'un État criminel corrompu jusqu'à la moelle, dont les services publics, les banques, les syndicats servaient à blanchir toutes sortes d'actions délétères. Castro se disait prêt à juger ceux qui ne s'étaient pas enfuis. En Provence, des tueurs à gages de Batista et mules de la Gestapo étaient passés par les armes sans procès équitable. J'entendis Castro y revenir. Ces phrases-là sont gravées à moi. Vous savez que nos prisons sont pleines de ces policiers qui ont torturé et égorgé vos frères sous l'ancien régime. Ils sont venus d'eux-mêmes, craignant la colère du peuple. Des tribunaux militaires examinent les dossiers de ces criminels dont les procès s'ouvriront dans quelques jours. Mais je veux que le monde entier sache que c'est vous, le peuple de Cuba, qui déciderez de leur sort. Si vous demandez leur grâce, ils seront graciés. Car je ne suis pas un assassin.
Con candor, el alma entera yo le di, pensando en nuestro idilio consagrar, sin pensar que ya lo que buscaba en mí era el amor de loca juventud.
Bonjour Zoé Valdés.
Bonjour.
Une réaction à ce texte de Frédéric Couder?
Ah, c'est un très beau texte, mais c'est vrai aussi qu'il y a cette voix de Castro qui est très impressionnante toujours et qui, en même temps, qui menace d'une façon très subtile, impose l'obéissance à son peuple dès le début.
Qu'avez-vous ressenti au moment où vous avez appris la mort de Fidel Castro? Au moment de l'annonce?
Oui, j'ai reçu un appel sur mon portable, puis j'étais très, évidemment, très euphorique. Mais tout de suite. Oui, euphorique. Mais tout de suite, après, j'ai commencé à penser à mes parents, à tous ces gens, les écrivains, des amis écrivains qui sont morts, Reinaldo Arenas, Guillermo Cabrera Infante, Lydia Cabrera et tant d'autres écrivains et artistes, et peintres, et musiciens, qui sont morts avant Castro et en exil.
Vous pouvez imaginer, Zoé Valdés, que certains puissent être troublés par ces réjouissances autour de la mort d'un homme, parce qu'il y a eu des réjouissances, notamment à Miami, aux États-Unis, et puis dans la communauté cubaine, un peu partout à travers la francophonie, des personnes comme vous qui se sont réjouies.
Ce n'est pas la mort d'un homme, c'est la mort d'un tyran qui a gouverné et d'une façon terrible pendant 5 à 7 ans. Ils ont les droits. Vous savez, à Miami, les gens riaient et dansaient, mais ils pleuraient à l'intérieur.
Oui.
Pas mal de morts, exécutés, disparus dans la mer. À Cuba, par contre, il y a une grande queue où les gens pleurent et à l'intérieur, ils sont très contents. C'est l'inverse.
Oui.
Je préfère la conga à la queue, parce que la conga, c'est spontané. Et la queue s'est imposée.
Donc ce que l'on voit en ce moment, Zoé Valdés, quand on voit ces jours de deuil, parce qu'au moment où on parle, il y a des personnes qui sont a priori en deuil, tout ça est encore organisé par la dictature.
Tout a été organisé par la dictature. Tout. Et puis, c'est vrai aussi qu'il y a là tout un peuple qui a vécu une dictature et un système totalitaire pendant 57 ans. Et c'est très difficile de penser d'une façon libre. Et puis, c'est vrai aussi qu'il y a des gens qui sont toujours très castristes et qui adorent Fidel Castro. Ça, il ne faut pas le nier non plus. Il y a des gens qui adorent Fidel Castro.
Dans votre nouveau roman, Zoé Valdés, La Havane, mon amour, vous célébrez la ville de votre enfance avec beaucoup de souvenirs. Vous écrivez aussi dans ce livre, La Havane n'est plus une belle ville aujourd'hui. Elle ne l'est plus parce qu'elle n'est pas libre. Finissons-en avec les mensonges et les inepties. La beauté n'est pas sans lien avec la politique. La dictature a tout enlaidi.
C'est vrai, je l'écris, je le maintiens et je le confirme. Vous savez, une dictature, on le dit tout, et la liberté, c'est le plus important pour les citoyens et pour les gens qui peuplent une ville. Et quand vous voyez les gens dans la rue qui sont en train de demander aux étrangers un peu d'argent pour pouvoir manger, qui offrent une image de misère et de douleur, ce n'est pas la vraie ville qu'on a connue jadis, c'est une autre chose.
Qu'est-ce qui va changer à Cuba désormais, avec la mort de Castro?
Rien pour le moment. Je pense que tout va continuer comme ça. Il y a Castro II qui est au pouvoir et il va maintenir ses idéaux et ses envies et surtout son désir d'argent. Parce que maintenant, et ce qui compte le plus, c'est l'argent plus que les idéaux.
Merci beaucoup Zoé Valdés. Votre nouveau roman La Havane, mon amour est paru chez Artaud. Merci,
merci
Zoé.
Merci à vous.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.
Frédéric Couder, votre roman se déroule en grande partie à La Havane aussi,
oui.
Avec cette enquête autour de Camilo, le fidèle compagnon de Fidel, mort mystérieusement dans un accident d'avion. La Havane semble en deuil, comme on en parlait avec Zoé, sous le regard du monde en ce moment même. Pour combien de temps d'après vous?
Elle est aussi en deuil de tous ses exilés. Pour moi, c'est très ouais. émouvant d'entendre Zoé Valdés. J'y étais, vous imaginez, enfin, son texte est magnifique, La Havane, mon amour.
J'ai vraiment adoré. Très bon livre.
Je l'ai lu après mon retour. Et c'est vrai que d'imaginer que moi, j'y étais, tous les endroits, je logeais à côté de chez elle. C'est les montagnes russes. Tout d'un coup, on a un bonheur à se balader. Et puis, une douleur à voir des choses innommables, oui.
Peut-on imaginer un changement de régime? Plus rapide désormais. Alors elle parle évidemment de Castro II avec le frère Raoul. Oui. Vous pensez qu'il va rester en place, vous?
Alors j'ai quand même, je l'imaginais là-bas. J'ai beaucoup traîné dans l'université de La Havane, qui est un très très bel endroit au centre et qui est effectivement le théâtre de manifestations avant la révolution. Et on peut imaginer là-bas qu'il se passe quelque chose.
Un début
de frémissement. Et malheureusement, j'ai vu plein de jeunes étudiants soutenir les funérailles de Fidel. Donc moi j'en sais rien. C'est-à-dire que pour le moment, avec en plus Trump en face, ça va mettre quand même un petit moment.
C'est compliqué. Hein, ouais. Et puis, il y a beaucoup de manipulation. Hein, Zoé Valdés le rappelait. Il y a encore de la manipulation. Et on prend les noms, elle m'a expliqué moi hors antenne, en me disant qu'on prenait les noms de ceux qui venaient rendre hommage à Fidel Castro, donc
en plus, et
on
ne
fait pas trop les malins.
Et puis de façon un peu plus sincère, et Leonardo, il faut quand même un mot sur Leonardo Padura, parce que moi mon personnage s'appelle Leonard,
oui.
Il y a du patriotisme aussi, donc il faut aussi imaginer qu'il y a des Cubains qui restent, qui sont là aussi parce qu'ils aiment leur pays, donc ils ne veulent pas que les Américains arrivent.
Un autre libraire a lu votre livre, Frédéric Couder, on va terminer avec lui, c'est Billy Robinson, il est au Canada. Allez-y Billy, qu'en pensez-vous?
Écoutez, moi j'ai beaucoup aimé cette lecture. C'est un dépaysement total. On est dans l'actualité, bien entendu, mais j'ai appris beaucoup de choses. Bien entendu, là, grâce au talent de l'auteur. Mais je me suis laissé le divertir par cette touchante histoire là, de racines familiales, de cette histoire d'amour même. Alors, malgré quelques personnages un peu clichés ici et là, ça m'a tout de même pas eu raison de mon engouement pour ce beau roman.
Voilà, un roman qui est donc dans l'actualité, vous l'avez compris, Frédéric Couder, Le jour se lève et ce n'est pas le tien, paru aux éditions Héloïse d'Ormesson. Merci beaucoup Frédéric.
Merci,
bonne
merci
chance
à vous.
Pour
merci,
ce roman.
Merci.
À très bientôt. À suivre l'actualité des livres de poche avec Anna Gavalda et notre hommage au sculpteur Ousmane Sow qui nous a quittés jeudi matin à Dakar. On écoute le tout nouveau titre du chanteur Vianney avant cela. Merci à vous d'écouter la librairie francophone à travers le monde.
J'ai troqué mes clics et mes claques contre des cloques et des flaques. Mon sac à dos pour oublier qu'avant c'est toi qui me pesais. Ce qui m'emmène, ce qui m'entraîne, c'est ma peine plus que la haine. Oh ma route, oh ma plaine, Dieu que je l'aime. Tourne et tourne dans ma tête les images du long métrage où tu es belle et moi la bête, et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer, ou diable toi et tes apôtres, je m'en vais. Qui perle sur mon front, gouttes de pluie, gouttes de froid. Donne des ailes, donne donc l'envie de m'éloigner de toi. Et mes larmes, et mes armes sont ma peine plus que la haine. Et mes larmes, Dieu que j'ai mal. Tourne et tourne dans ma tête images du long métrage où tu es belle et moi la bête, et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer, au diable toi et tes apôtres, oh, je m'en vais. Je m'en vais.
C'est le tout nouveau titre de Vianney, Je m'en vais. Après Pas là, je m'en vais. Cet homme n'est jamais là. Sur votre radio francophone.
La librairie francophone, une émission coproduite par les radios francophones publiques.
RTS, la première.
RTBF, la première.
Ici, Radio-Canada, première.
France Inter.
Toutes les semaines, nous vous emmenons dans la plus grande librairie du monde, un lieu virtuel avec des libraires et avec des coups de gueule ou des coups de cœur. On commence tout de suite en Belgique avec Annick Dor et un gros coup de gueule, paraît-il, Annick.
Oui, à l'encontre d'un phénomène de plus en plus répandu qui est l'exofiction. Alors c'est le fait qu'un romancier s'empare d'une personnalité réelle, publique, pour réécrire complètement son histoire en inventant éventuellement ce qui n'est pas connu.
Ah bah comme Frédéric Couder.
Non, parce que lui, justement, voilà. À la fin de son livre, il précise ce qui est vrai, ce qui est faux.
C'est vrai, c'est bien, vous
donc,
avez suivi.
Voilà. Ouais, c'est bien. Mais donc, on est justement donc très loin de ce qu'on appelle une biographie romancée, hein, qui reste globalement fidèle au personnage dépeint. Alors, là où ça pose évidemment problème, c'est qu'on déforme la vérité historique et surtout qu'on brouille les cartes. Alors, il y a plein d'exemples, parmi lesquels, j'en citais que deux. Il y a le livre de Bernard Chambaz sur Ayrton Senna et puis il y a celui aussi de Jean-Michel Guenassia sur Vincent Van Gogh. Mais il y en a plein d'autres.
Ouais, c'est vrai qu'il y en a plein d'autres et vous avez tout à fait raison, je suis complètement d'accord avec vous. Ça brouille les pistes, ça brouille les cartes et même si le romancier a tous les droits, quand on parle de faits historiques, on aime bien avoir un petit peu de vérité. Et Frédéric Couder, on le rappelle, cite ce qui est vrai et ce qui est faux à la fin de son livre, c'est ça qui est honnête. Merci beaucoup Annick Dor. On va partir au Canada tout de suite avec Billy Robinson et on va ouvrir la séquence des livres de poche avec lui et un coup de cœur, je crois.
Un coup de cœur, oui, voilà. Un coup de cœur pour Jean-Christophe Ruffin et son Checkpoint. Alors ce roman m'a beaucoup touché.
Oui.
C'est une quête à hauteur d'homme. d'hommes et de femmes. Et le thème de la guerre, bien entendu, déborde largement les frontières. Et cette tristesse dans ce regard singulier là, sur ce sujet et la cruauté qui est souvent latente est plus près de nous que l'on pense.
Jean-Christophe Ruffin, Checkpoint, paru aux éditions Folio. Et ce n'était pas du tout prévu hein, que l'on ait Jean-Christophe Ruffin dans cette émission, puisqu'il y a l'hommage à Ousmane Sow et qu'on l'a contacté il y a quelques minutes. En tout cas, voilà, c'est votre coup de cœur, Jean-Christophe Ruffin, Checkpoint. Merci beaucoup, Billy. Dans l'actualité des livres de poche, Anna Gavalda fait aussi l'événement avec une édition limitée de Billy, son roman social qui avait agité nos libraires. Nous l'avions reçu à la sortie de ce roman en avant-première en 2013. Extrait.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Alors Anna, Billy est une jeune femme qui raconte son histoire et les liens qui l'unissent à Franck, un jeune homosexuel. Elle parle un français un peu fantaisiste, un mélange d'Arletty et d'expressions aux références actuelles. Est-ce que c'était pour lui donner du caractère, comme ça, que vous êtes mise dans sa peau avec ce langage ?
J'ai pas réfléchi, elle est arrivée toute cuite. Je n'ai rien eu à faire. J'ai simplement, je l'ai écoutée. J'ai écrit comme elle parlait. Elle est arrivée comme ça, avec cette voix-là, ce vocabulaire-là, ces références-là. Et en effet, elle revient de très loin, elle est quasi illettrée et elle doit se faire une culture très vite, en très peu de temps. Et donc elle glane partout ce qu'elle peut et donc tout est mélangé.
Et Billy vient comme Franck de la province rurale, c'est la campagne urbaine on va dire, une petite ville où la misère sociale a fait son nid. Et vous écrivez « La campagne, quand t'es pas comme tout le monde, c'est encore pire que l'indifférence ».
J'ai le temps de raconter d'où ça vient, ça ?
Allez-y, ouais.
Ça vient du film qui m'a le plus bouleversée ces dernières années, qui est un documentaire qui s'appelle Les Invisibles, qui raconte justement qu'est-ce que c'était la vie quand on était homosexuel et que c'était pas encore la mode d'être homosexuel, quand il n'y avait pas encore la gay pride et les bars et le mariage pour tous.
Dans les années 20, 30, 40.
Entre tous, voilà. Et c'est un documentaire qui m'a bouleversée parce qu'en fait, l'homosexualité n'est... Enfin, c'est pas ça le thème, c'est l'invisibilité. Et l'amour, c'est des histoires d'amour extraordinaires, parce que ces gens-là ont vécu des choses terribles et sont encore ensemble et en témoignent.
Et donc
voilà, j'ai vu ce documentaire, j'ai été absolument bouleversée, vraiment, vraiment. Et je me suis dit, voilà, ça, je ne sais pas si on peut rire de tout ou pas, mais ça, d'être obligé de cacher sa vraie nature, puisque qui on aime, c'est sa vraie nature, ou comment on aime, ça, c'est vraiment très dommageable.
Et c'est ce que Billy va essayer de faire, aider Franck à surmonter ça, parce que lui, il est écorché aussi, il est perdu comme ça, dans ses attirances, perturbé par son comportement. Billy, elle a vécu des drames familiaux, la violence, la maltraitance, et tous les deux se sont longtemps évités. Et vous dites, on s'était évité pendant toutes ces années, parce qu'on sentait que l'autre se trimballait du lourd aussi, et qu'on ne pouvait prendre le risque de souffrir un milligramme de plus.
Mais je suis sûre que ça existe. Mais je suis sûre que même ici, à la maison de la radio, il y a des gens entre eux qui se reconnaissent et qui vont pas les uns vers les autres parce que, alors ça peut être complètement autre chose. Hein, ça peut être d'autres addictions, d'autres béquilles, d'autres souffrances. Mais voilà, c'est dans la vraie vie, c'est la vérité. On se reconnaît. D'ailleurs, ce livre est dédié aux clandestins. Il y a des gens qui ont leurs papiers, mais à qui il manque plein d'autres choses. Et ce livre, il est pour eux. Voilà. Vous n'êtes pas seuls.
Qui sont sur les bords d'autoroute et qui vivent comme ça.
Mais voilà, c'est-à-dire que lui, moi, vraiment, le thème de ce livre, c'est pas du tout l'homosexualité de Franck. Je m'en fiche complètement. C'était très pratique pour moi de prendre ça parce que, en effet, voilà, ça
existe. C'est une ficelle.
Non, c'est pas une ficelle. Non, c'est pas une ficelle. Je suis pas dentelière. Non, mais elle, son truc, elle, c'est la pauvreté. C'est pareil. Elle est très très pauvre. Voilà. Elle descend. Quand elle descend du car, elle descend pas à son arrêt parce que son arrêt, c'est l'arrêt de la zone et des caravanes là-bas près de la déchetterie. Donc elle descend à l'arrêt d'avant et elle finit le chemin à pied. Ils ont chacun un truc qu'ils ne veulent pas montrer.
Vous croyez en cela, vous, il n'existe pas d'amour impossible. Cette phrase-là, elle résonne en vous. Vous y croyez foncièrement?
Où est-ce que c'est cette phrase ?
Non, c'est moi qui interprète, c'est le résumé du livre.
Il n'existe que des amours impossibles, Emmanuel, voyons. Vous savez bien.
C'est vrai
non,
que...
Non, mais là, j'invente une autre histoire d'amour. Voilà, j'invente une autre histoire d'amour. Évidemment, ils ne vont pas coucher ensemble. Il n'aime pas les filles et elle aime les garçons. Donc, ils ne vont pas coucher ensemble. Mais ils sont inséparables et ils s'aiment... C'est une grande histoire d'amour. Voilà, je voulais expliquer que l'amitié peut être une grande histoire d'amour. Et je pense aussi que les belles histoires d'amour sont... au départ des histoires d'amitié. Je pense que ce qui peut arriver de mieux à un homme ou une femme, c'est quand il fait l'amour avec son meilleur ami ou sa meilleure amie. Voilà.
Ah oui, carrément, vous allez jusque-là, vous.
Ouais, enfin, j'ai l'impression que c'est ça. Hein. J'ai l'impression qu'être heureux en couple, c'est se dire, bon, ouais, C'est l'ami.
C'est-à-dire être le meilleur ami de l'autre, quand
plus,
on est en couple.
En plus de son amant ou de sa maîtresse, oui, je le crois.
Et une édition en poche qui rassemble Billy et La vie en mieux vient de paraître aux éditions J'ai lu à un prix festif. C'est pas cher, c'est en édition limitée, c'est une première idée cadeau pour Noël. Nous avons donc appris jeudi la mort d'un immense artiste sénégalais, Ousmane Sow, reconnu dans le monde entier pour ses sculptures monumentales, agité le monde de l'art, inventeur de matière, inspiré par les lutteurs, les guerriers Maasai ou encore les grands hommes du monde. Il imaginera alors un atelier à la dimension de ses œuvres au Sénégal sur un vaste terrain. Membre de l'Académie des Beaux-Arts en France, il sera le premier artiste noir à y entrer. En 1999, à Paris, il attire plus de 3 millions de visiteurs pour son exposition sur le Pont des Arts. Et lorsque Jean-Christophe Ruffin entre à l'Académie française, eh bien, c'est Ousmane Sow qui réalise à sa demande son épée d'académicien. Bonjour Jean-Christophe Ruffin.
Bonjour Emmanuel.
Merci beaucoup de réagir à cette disparition dans la librairie francophone. Vous connaissiez très bien Ousmane Sow. Comment avait-il pris justement cet honneur de réaliser votre épée pour l'Académie française ?
Oh ben, l'honneur était pour moi, à vrai dire. C'était pas, lui n'avait pas besoin de ça.
Si, non,
ça m'a beaucoup touché parce qu'à l'époque, j'étais donc diplomate au Sénégal et je voyais Ousmane très très souvent. Il venait à la maison et j'avais une très grande admiration pour lui. Mais pour moi, c'était un sculpteur de grandes œuvres, des œuvres monumentales. La plupart de ce qu'il faisait, c'était des grandes sculptures. Et moi, très timidement, je lui ai proposé de faire ce pommeau, là, mais c'était tout petit. Et alors, avec ses gros doigts, là, il n'a pas voulu le faire en réduction, il a voulu le faire vraiment dans la taille originale. Il a sculpté cette figure que je garde précieusement. Puis, voilà, mais pour moi, c'est surtout le souvenir de lui, quoi, d'une amitié, enfin, d'un homme extraordinaire qui était.
Que représentait-il d'ailleurs pour le monde de l'art africain? Que va-t-il laisser, Ousmane Sow?
Ben, c'était un peu paradoxal parce que Ousmane était un peu mis à toutes les sauces, on était invité partout, très célébré, et en même temps, le milieu de l'art contemporain, pas africain, mais le milieu de l'art contemporain international, si vous voulez, l'a assez peu reconnu, paradoxalement. Vous avez assez peu de ses œuvres dans les grands musées, etc. Et c'est une chose qui le faisait un peu souffrir parce que, il était à la fois reconnu, très apprécié du public, peut-être un peu trop figuratif pour certains, ou trop classique, j'en sais rien. C'était vraiment un sculpteur classique, hein, D'ailleurs, vous savez que c'était pas son métier. Il était à l'origine, c'était un kinésithérapeute.
Oui, exact.
Et il avait cette espèce de rapport physique comme ça à ses matières, qui était d'ailleurs secrète. Il voulait pas dire comment il faisait ça. Mmh. Et bon, il sortait
la terre surtout.
Terre, oui, mais il y avait aussi, il y avait un mélange de plein de choses. Enfin, il voulait pas dire comment.
Oui, c'est vrai. Il y avait une recette particulière.
Mais il voulait pas la dire. Mais voilà, c'était un homme tout entier dans son œuvre, c'est-à-dire physique. D'abord, il ressemblait à son œuvre. C'est un géant. Il était et puis il faisait quelque chose qui était l'expression de lui et de la terre dont il venait, c'est-à-dire de l'Afrique.
Voilà, la mort d'Ousmane Sow, qui a bouleversé le monde de l'art, même si, comme vous le disiez, c'est vrai qu'il n'était pas assez reconnu par les experts, comme on dit, mais le public, en tout cas, ne s'y trompait pas, il avait des fans dans le monde entier. Merci beaucoup Jean-Christophe Ruffin.
Je vous en prie.
Merci Jean-Christophe, on pense à vous, car vous étiez très proche de lui, alors vous avez toute notre amitié Jean-Christophe.
Merci.
À très bientôt, merci beaucoup, au revoir. Ousmane Sow était un artiste généreux d'une grande délicatesse, fidèle à la librairie francophone. Voici un extrait de l'un de ses entretiens réalisés en octobre 2009. Bonjour Ousmane Sow.
Bonjour.
Vous êtes un artiste sénégalais mondialement connu, on vous doit des œuvres monumentales, des sculptures qui rendent hommage aux ethnies d'Afrique et d'Amérique, mais aussi aux grands hommes de notre temps. Un livre publié aux éditions Le Petit Jardin raconte votre histoire un peu à la manière d'un conte. En prenant votre vie sous cet angle, est-ce que vous rendez hommage à la tradition orale africaine, aux conteurs d'Afrique ?
Mais je crois que c'est ce que Béatrice, puisque... C'est elle...
Béatrice Soulet, oui, qui a réalisé l'ouvrage.
Oui, à chaque fois, je lui racontais des histoires et elle notait comme ça ou elle mémorisait. Et il y a même des anecdotes que j'avais oubliées, que je lui avais racontées. C'est pour ça que si un jour on fait ma biographie, ce sera difficile. Celui qui voudra le faire, je pense, devra s'inspirer...
Devra piocher dedans, oui.
Dedans, oui.
Lorsque vous vous lancez dans la sculpture, alors c'est la kinésithérapie qui vous fera prendre connaissance du corps humain. Et lorsque vous sculptez ces hommes, ces géants, vous les présentez nus. Et d'ailleurs, vous choquez les Sénégalais parce que ce n'est pas trop dans la tradition. Et on se demande pourquoi la nudité est si importante pour vous.
Il est vrai que la kinésithérapie m'a aidé puisque... La nudité pour moi était devenue quelque chose de banal. Les Sénégalais n'ont pas compris. D'abord la sculpture qui est interdite par la religion musulmane.
Et puis la représentation du corps, oui. Surtout.
La nudité de et après, les gens, c'est devenu banal.
Alors, dans ce livre, vous rendez hommage à de grands noms, Nelson Mandela, Mohamed Ali, Martin Luther King ou encore Gandhi. Oui.
Pour cette cause, je suis tout comme vous prêt à mourir. Mais écoutez, mes amis, il n'existe aucune cause au monde pour laquelle je me sente prêt à tuer. Quoi qu'il nous fasse, nous n'attaquerons personne. Nous ne tuerons personne. Nous ne donnerons pas un seul coup. Mais nous recevrons les leurs sans un mot. C'est notre souffrance qui leur fera comprendre leur injustice. Notre souffrance. La souffrance de tout combat.
Un extrait du film Gandhi, bien sûr, avec Ben Kingsley, que je vous encourage vraiment à vous procurer en DVD, hein, qui est sorti en DVD.
Oui, je l'ai regardé, je l'ai vu deux ou trois fois.
Est-ce que c'est un socle qui porte votre création, cette figure de Gandhi, Ousmane Sow ?
Aussi, oui. Et tant d'autres aussi, parce que, vous savez, c'est tellement difficile de faire des gens. C'est pour ça que je ne pense pas pouvoir réaliser une sculpture de quelqu'un que je n'aime pas. Parce qu'on est, comment dirais-je, chaque matin quand je descends dans mon atelier, c'est un rendez-vous. Et puis, comme ça, d'être ensemble, c'est quelque chose de fantastique. C'est bien que Gandhi, enfin, je ne les ai pas choisis comme ça au hasard.
Non, bien sûr. Oui.
Je connais leurs faiblesses, mais comme c'est des gens exceptionnels, c'est fantastique.
On va terminer avec l'une de vos citations, Ousmane Sow. Quand on vous congratule, que l'on vous félicite pour vos œuvres, vous dites que ce ne sont que des objets, finalement. Et vous dites aussi, mes sculptures ne peuvent pas se déplacer quand il pleut, et pourtant, toutes les créatures de Dieu peuvent, elles, aller s'abriter.
Oui, moi je crois que la sculpture, c'est ce qui m'a ramené à Dieu, parce que j'ai vu sur le Pont des Arts, il a beaucoup plu. Les gens allaient s'abriter dans le préau du Louvre, et les sculptures étaient là, mouillées. Alors, je me suis dit, non, ce que je fais par rapport à l'être humain, c'est vraiment rien du tout. Et je le dis heureusement encore parce que je me dis que sans ça, on se laisse embarquer dans pas mal de choses. C'est des objets, effectivement, rien que ça.
De nombreux livres sur Ousmane Sow et son œuvre ont été publiés. Il faut connaître l'art de ce grand homme. Rendez-vous chez votre libraire pour en savoir plus. Dans cette plus grande librairie du monde, on part tout de suite à Beyrouth, au Liban, avec Rania Stéphan. Rania, vous nous présentez un coup de cœur dans le rayon des livres pour la jeunesse.
Oui, un très grand coup de cœur. Un coup de cœur pour un livre qui s'appelle Le Grand Méchant Grao aux éditions Samir. Donc c'est une maison d'édition libanaise.
Oui.
Et c'est une histoire d'amitié. L'amitié provoquée par l'insistance d'une petite fille auprès d'une créature terrifiante et solitaire qui s'appelle le Graou. Le dessin est très très expressif mais très très simple. Il est pratiquement entièrement en noir et blanc avec une toute petite tache rouge qui est la petite fille qui tient à la main un grand livre bleu. Et donc là on pourrait carrément se passer de texte mais ça serait un peu dommage parce que le texte est vraiment poétique, c'est tendre, c'est frais, c'est attachant. Bon, dans un monde où les valeurs, malheureusement, sont toujours en train d'être mises en question en ce moment.
Le grand méchant Graou, c'est donc aux éditions Samir et c'est le choix de notre libraire libanaise Rania Stéphan. Merci beaucoup Rania. On file dans le rayon des romans contemporains à présent en Suisse avec Anne-Françoise Corr. Coup de cœur ou coup de gueule, Anne-Françoise ?
Alors un coup de gueule, Emmanuel, contre le roman d'Emmanuel Rigaud qui a été publié chez Good Heidi Productions. Parce que là, j'ai envie de dire aux éditeurs qui habillent les romans de bandeaux accrocheurs, de grâce, arrêtez. En effet, ce livre est un roman gentillet et édulcoré sur les sentiments masculins. Mais son bandeau racoleur annonce enfin un roman suisse sur le désir masculin. Que dire alors de certains textes autrement plus forts, plus sensuels, d'un Jacques Chessé par exemple, avec la qualité littéraire en plus ? Voilà.
D'accord. Donc le message, c'est lisez Jacques Chessé plutôt que ce livre-là, c'est ça ?
On peut aller jusque-là, oui.
Olivier Rigaud ou Emmanuel Rigaud ?
Olivier Rigaud.
Ah, vous avez dit Emmanuel, c'est pour ça. Donc Olivier Rigaud, si ça vous tente, c'est aux éditions Good ID Productions. C'est rien que le nom de la maison d'édition, Un homme sous emprise. Bon, merci beaucoup Anne-Françoise. La librairie francophone avec Frédéric Couder, Zoé Valdès, Anna Gavalda, Marie Desplechin et Junko Kawakami. Bonjour Junko.
Bonjour.
Vous êtes japonaise, vous vivez en France depuis 12 ans, vous êtes auteur de mangas, des mangas qui se déroulent à Paris, c'est très étonnant d'ailleurs. Vous faites le pont comme ça entre le Japon et la France? Vous comparez les deux pays?
Oui, c'était juste pour montrer la différence culturelle entre le Japon et la France. Mais je venais d'arriver en France.
Oui.
Alors j'ai mis plutôt des anecdotes assez légères, genre je me suis fait engueuler par le vendeur dans le magasin qui arrive jamais au Japon, ce genre de choses.
On ne se fait jamais engueuler dans les magasins au Japon.
Ah bah si je vole quelque chose, il appelle la police, mais sinon les clients sont déduits un peu, voilà, c'est pas de tout comme ici.
Comme en France. Bon, voilà, on va revenir sur ce sujet, puis ce sont des adolescents qui portent votre histoire, et c'est important justement que ce soit des ados. On va revenir sur cette histoire de la littérature jeunesse et des livres pour les adolescents dans cette troisième partie. Le marché est considérable et nous allons essayer de vous guider. Que doit-on donner à lire aux ados? C'est la question que nous posons. On poursuit cette conversation après la reprise d'une célèbre chanson du patrimoine belge et plus largement francophone. Voici le groupe corse Imouvrigne avec 500 choristes qui interprètent Amsterdam et c'est le tube francophone de la semaine.
Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Port d'Amsterdam, y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mornes. Et non pour toi l'amour et noi marinari e di pietre di trama in New York di chiama. Pour toi là, lascia noi marinari. Valore che pesa di un mare in attesa. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroiser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites, que leur grosse m'invite à revenir en plus. Et per l'idée si de l'amour d'ancore, una vera di impesta, e così la sovesta. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent, en se frottant la panse, sur la panse des femmes, così ballano tombo, come soli al mondo, in lo sono stracciato, con arcane tondago.
Imouvrigne avec 500 choristes qui reprennent Amsterdam, grand titre de Jacques Brel, sur ICI Radio-Canada Première, RTBF la première de la RTS, et sur France Inter.
La librairie francophone, Emmanuel Queyrade.
En ce moment, en France, se déroule le plus grand salon du livre jeunesse dans l'espace francophone. 90 millions de livres jeunesse ont été vendus en 2015. À Montreuil, 2000 auteurs et illustrateurs se retrouvent tout le week-end. Parmi les 2000, nous en avons choisi deux, Marie Desplechin et Junko Kawakami. Alors Marie, vous avez publié un superbe roman aux éditions L'École des loisirs. Sotik raconte une histoire vraie, l'histoire d'un Cambodgien, son enfance pendant la guerre civile. Grâce à lui, en fait, vous racontez l'histoire du Cambodge.
En tout cas, je raconte l'histoire très particulière des années de régime Khmer Rouge, donc oui, voilà. Moins de 4 ans, pendant lesquels un Cambodgien sur 3 a disparu. Donc on sort de là, on peut être essoré, mais il y a un demain, il y a un avenir, cet homme se construit, voilà, il fait des études très importantes, voilà, il travaille.
Bon, c'est vrai que la littérature jeunesse, Marie Desplechin, elle est toujours dans une forme d'intégrité, de sincérité. On ne passe pas par les détours de la narration ou les effets de style, on raconte simplement. C'est ça la différence avec la littérature dite
adulte ?
Non,
parce que vous avez des gens qui font des tas de détours de narration. Moi, je suis d'accord avec vous sur le truc de la sincérité, c'est parce qu'on sait à qui on s'adresse et c'est un public. C'est un vieux fou entre nous qui sait qu'on ne peut pas se moquer de lui. Voilà, qu'on ne peut pas lui dire n'importe quoi. Une espèce de respect du lecteur qu'on n'est pas obligé d'avoir en littérature pour les parents. Un enfant, c'est différent. C'est un état de l'être différent. Après, il y a des tas de très très grands romans pour enfants avec énormément de trucs narratifs, de décorations. Là, Sotik, c'est un livre dont le récit est très très net et très sec aussi parce que je l'ai coécrit avec un type qui est né, qui a été éduqué et qui vit au Cambodge.
Mais
donc
c'est
la place des émotions...
En tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plus dans le concret. La nouvelle littérature jeunesse, si je peux me permettre, a moins de décors, moins de narration, comme vous dites. On enrobe un peu moins les choses, on dit les choses aux enfants.
Ça dépend des gens. J'irais ça. Ouais. Ah oui, après, on peut se montrer assez direct. Oui, Il y a un certain nombre de choses qu'on peut dire. Je pense qu'il ne faut pas désespérer l'enfance, comme il ne fallait pas désespérer... Mais c'est à peu près la seule limite. Après, on peut parler absolument... de tout. Et après, selon les genres, vous aurez toutes les dystopies, les énormes tomes d'Hunger Games avec des choses très très romanesques. Et puis vous aurez des récits qui seront effectivement directs, sincères, honnêtes, droits dans le vif.
Alors, dans un autre style, il y a les mangas. On va parler des mangas dans un instant. Tout de suite, il y a deux libraires qui vont nous parler de l'état des lieux de la littérature jeunesse dans leur pays. En Belgique, il y a Annick Dor qui va intervenir. Annick.
Ben oui, c'est vrai, nous on a d'excellents auteurs et illustrateurs qui incarnent vraiment le réalisme magique à la belge, hein. Je pense entre autres à notre Kitty Kroer nationale, pour ne citer qu'elle. Alors c'est vrai qu'il faut préciser que sur un petit territoire comme le nôtre, eh bien on a des maisons d'édition aussi très courageuses. Je pense à Pas de Loup ou Kerr Édition, qui sont vraiment des petites maisons d'édition qui sont arrivées il y a vraiment peu de temps et qu'il faut avoir à l'œil. Et puis aussi à citer Mijad, Anamur ou les éditions Alice. Parce que c'est vrai qu'à côté de l'imaginaire, il y a certaines maisons d'édition qui font vraiment des livres à caractère social, qui collent à la réalité, avec des thèmes comme ben voilà, la guerre, le divorce, l'obésité ou des jeunes vraiment en difficulté. C'est les écoles hein, souvent qui sont friands de ce genre de lecture.
Ouais, c'est éducatif. Formidable maison d'édition Mijad hein, que vous avez cité, qui fait des livres, des romans pour ados magnifiques justement. Rania Oliban, quel type de livres pour enfants vendez-vous à Beyrouth ?
Nous, essentiellement, nous vendons des livres importés de France, donc la plus grande partie, parce que ce qui se passe, c'est que les maisons d'édition libanaises publient en très grande partie en langue arabe et très très peu publient en langue française. Mais il y a quand même quelques petites maisons d'édition qui font en langue française et ça se passe plutôt bien pour elles. Mmh.
Junko Kawakami, vos mangas sont aussi des témoignages, un peu comme le livre de Marie Desplechin, mais dans un tout autre genre, plus léger. Vous abordez les différences culturelles entre les Japonais et les Français. Ouais. Une famille quitte Tokyo pour Paris et l'intégration pour les adolescents qui vont au lycée n'est pas si facile. Il y a des choses qui les perturbent et vous constatez, en tout cas, ils constatent à Paris que les Parisiens ont des comportements étranges.
Oui, c'est très différent. On est beaucoup plus près. Aux autres, on se fait des bisous, tout ça, on se fait jamais, j'ai jamais fait avec mes parents non plus, on se touche pas,
Ah, au Japon, on ne se touche pas alors
non,
que
pas trop.
En France plus, ouais.
Bah oui, pour les ados, ça peut être très perturbant.
Oui, ça dépend hein, quel type d'ado, mais il y en a qui aiment bien ça.
Vas-y, au fond, peut-être au fond de vous, peut-être ils aiment bien, mais on ne peut pas tout de suite acheminer, je pense.
Il y a des choses qu'on ne peut pas faire au Japon. Alors, c'est très vif le manga d'ailleurs. Hein. Vous parlez de spontanéité. Dans le manga, il y a ça, il y a des expressions très fortes. Tout de suite, on a l'impression que les personnages y crient dans le manga. Alors, je pense que c'est moi qui ne suis pas habitué. J'ai un peu de mal avec les personnages des mangas parce qu'ils sont tout le temps comme ça, exacerbés, avec la bouche ouverte.
Je sais pas. En tout cas, c'est vrai que c'est un peu différent que les bandes dessinées françaises.
Quel est l'impact du manga sur la jeunesse japonaise?
Parce qu'on peut transmettre
oui.
le personnage dans l'histoire.
S'identifier peut-être.
Voilà, s'identifier. Ouais. Oui, ça fait rêver. Puis, je ne sais pas, ça les fait de bien, j'imagine.
Oui, on s'identifie, c'est ce que dit Frédéric Couder. Ouais, faut-il inciter les jeunes à lire des mangas pour approcher la lecture?
Ben pour moi, c'est une forme de littérature. C'est un truc à lire, je pense. C'est pas l'art pour moi, donc c'est la littérature.
Marie Desplechin, vous êtes d'accord avec ça?
Moi, je pense qu'il faut pas. Les mangas, on n'a pas besoin d'encourager les enfants. Ils les lisent tout seuls. C'est ça qu'ils adorent. Ouais. Ils y vont tous. Et après, je pense que tout ce qui vous aide à raconter une histoire, à vous raconter une histoire, c'est bon, que ce soit du roman, du manga, du dessin animé, du film. Ce qui est important, c'est de pouvoir rentrer les choses dans des narrations, voir qu'il y a des logiques aux histoires, qu'on peut exprimer ce qui nous arrive, exprimer nos sentiments. Et si on arrive à partager ça avec les enfants, tout ira beaucoup mieux, monsieur, ça je vous le jure.
Vous pouvez m'appeler Emmanuel. C'est comme ça qu'on transmet le plaisir de la lecture, alors. À travers des narrations, quelles qu'elles soient, quel que soit le genre.
Bien sûr, c'est la première chose à laquelle on s'attache quand on est enfant. Après, la narration, elle va, vous parliez d'art, mais évidemment, il y a de l'art dans du manga, il y a de l'art dans du trait, parce qu'il y a du dessin, mais c'est comme il y a de l'art dans la parole, parce qu'il y a l'art de mettre la parole en son. Donc, qu'on le veuille ou non, c'est là. Après, je ne sais pas s'il faut faire des échelles de valeur. Alors, on peut toujours les faire, oui, mais enfin, c'est peut-être pas prioritaire.
Le mot de la fin, c'est pour deux libraires aujourd'hui. Anne-Françoise Kohr, la littérature jeunesse se porte-t-elle bien en Suisse, Anne-Françoise?
Oui, Emmanuel, la littérature jeunesse se porte bien, même très bien en Suisse romande. Elle est aujourd'hui représentée principalement par 3 maisons d'édition qui font un remarquable travail de découvreurs et de passeurs. Je ne citerai peut-être que la plus ancienne qui va fêter ses 30 ans, donc ça n'est plus une gamine, c'est La Joie de lire, qui allie créativité, valeur éducative et éclectisme. Qui ne connaît pas son tandem, Albertine et Germain Nozulo, ou encore Haïdé et son Hamilton? Aujourd'hui, ce sont des classiques à découvrir quand même encore.
Billy Robinson, comment ça se passe au Québec?
Alors, au Québec, ça se passe vraiment très bien parce que chez nous, en exemple, à la librairie de Verdun, c'est près de 50% de notre chiffre d'affaires.
Ah,
donc,
oui,
je définirais la littérature jeunesse d'ici comme étant vibrante, diversifiée. Pas de grande tendance, là, sinon que le quotidien des jeunes filles là, semble remporter un grand succès là, auprès des lectrices.
Oui, c'est vrai, j'en ai vu dans les métros de Montréal avec des jeunes filles qui lisent des histoires de jeunes filles.
Ah oui, c'est impressionnant. Et il y a aussi beaucoup un retour aux contes et aux légendes là, qu'on revisite là, aussi à l'occasion. Alors moi, je trouve que c'est très excitant là, et un bel espoir là, pour la génération future des lecteurs.
Très bien. Merci pour ce point complet. Merci beaucoup, Marie Desplechin.
Merci.
Je rappelle que votre livre Sotique est paru à l'École des loisirs. C'est sublime. Hein. Vraiment, je le conseille. Les ados à partir de 10 ans, 11 ans,
voilà.
12 ans.
11. Oui, c'est ça.
Pré-ado, quoi. Oui. Voilà. Et Junko Kawakami, votre manga franco-japonais, donc It's Your World, est sorti chez Kana. Voilà. C'est ton monde en français.
C'est ça.
Eh oui, ouais. C'est mieux en français, vous voyez.
Je ne savais pas dire à ce moment-là.
Ah, bah oui, bah maintenant vous le savez, vous allez rééditer. Merci à vous,
merci
à bientôt.
Merci beaucoup.
La librairie francophone, Emmanuel Guérad.
Avant de conclure, coup de pouce à un artiste francophone. Voici Juliette Armanet avec un extrait de La Carte Postale.
Je t'écris. C'est moi. Il est. J'ai rêvé si fort. Le papier sous mes doigts est dur comme ton corps. Je sais, je tords. J'ai dessiné ton nom et ton adresse. Et sur le côté, ça fait comme une promesse. Dieu, qu'elle est banale, la petite carte postale qui fait du mal. J'ai choisi cette image, je la trouve jolie, peut-être un peu sage, à vrai dire, sans rougir. Je veux juste t'écrire. Je dessine ton nom et ton adresse.
Juliette Armanet, nouvelle artiste de la scène francophone que vous pouvez retrouver sur Internet.
Ça fait comme...
Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. À la réalisation, Serge Gandon avec Éric Morin. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère et Marie-Louise Beau en France. Martine Béguin-Felet et Annick Chouet en Suisse. René Mikkels avec Valérie Elput en Belgique. Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. La semaine prochaine, le grand bédéiste belge Bernard Isler et l'écrivain réunionnais Emmanuel Janvrin, entre autres. Passez une très bonne semaine et un bon week-end. À bientôt. Salut.